on revient sur l'histoire de la Genèse. Aujourd'hui, on continue Jacob. Et le message concerne globalement Genèse chapitre 28, 29 et 30 que vous pouvez lire à la maison. Moi, je vais simplement repérer certaines parties de ce texte, mais je voudrais aussi parler de ce qui se passe dans l'arrière-plan spirituel avant de vraiment parler de Jacob. Donc, quand cette histoire démarre, Jacob est non-croyant. D'ailleurs, quand l'histoire d'aujourd'hui va se terminer, il est toujours non-croyant. Aujourd'hui, on voit Jacob le non-croyant. Son nom signifie « tricheur, escroc ». Quel nom? Il est un homme charnel. Il vit pour ce qui lui plaît. Et puis, dans l'histoire, on va parler tous les détails, mais dans l'histoire, il va voir son oncle Laban. Et lui aussi est aussi escroc que son neveu Jacob. Donc la Bible nous dit que le cœur humain est tordu et méchant dans son état naturel. On lit dans Jérémie, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous disons que l'homme animal, donc ce mot animal, c'est, en grec, c'est psychique, c'est l'homme psychique, c'est l'homme animal, l'homme naturel, c'est l'homme terrestre, c'est en opposition à l'homme spirituel qu'on devient par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, Greta avait dit qu'elle a distribué les feuilles, puis elle a trouvé jeté par terre les gens qui ne voulaient pas de ça. Et Sophie dit, c'est normal, c'est spirituellement qu'on discerne ces choses-là, et ça ne les intéresse pas. Donc, on comprend. Mais peut-être quelques personnes recherchent quelque chose de plus dans la vie. Malheureusement, nous avons tous la même nature humaine que Jacob. C'est pas que lui était pire que nous ou que nous sommes mieux que lui. On est dans des contextes différents, c'est sûr, mais notre cœur est absolument humain. La nature charnelle, la nature pécheresse. Ceci ne veut pas dire que nous manifestons tous de la même manière notre nature commune. Alors, on prend Jacob comme exemple de l'homme du monde, l'homme naturel, l'homme animal, l'homme psychique. Alors, Jésus et Paul ont parlé de ces choses. Ils donnent une description des œuvres typiques de l'homme naturel qui, des fois, se manifeste. Ce n'est pas toujours, c'est plutôt caché. Il y a même des scientifiques qui cherchent de trouver le gène qui donne tel crime ou tel péché. Eh bien, c'est peut-être dans tous les gènes, parce que c'est au fond de l'homme que ces choses se trouvent. Alors, Matthieu 15 dit... Attends, j'y vais. Voilà. Matthieu 15 dit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est-à-dire, ils sont déjà dans le cœur. Et quand on le voit dans la vie, c'est que la personne a laissé ça sortir. Okay? Mais c'était toujours là. Tous les péchés sont là. Parce qu'on a tous le même cœur privé de sainteté que tous les autres. Puis en Galates, Paul dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. » On voit les choses qui sortent. Pas tout le monde en même temps, attention. Mais ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Donc, il n'a pas terminé la liste parce que vous arrêtez d'écouter après un moment. La liste est longue et c'est plein de choses qui sont typiques à l'être humain. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme c'est Paul qui continue, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et notre ami Jacob, dans la Genèse, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment dans sa vie, il n'allait pas hériter du royaume de Dieu. Il était un homme tout simple, un homme charnel. Aussi, nous, souvent, quand on regarde autour de nous, nous allons nous laisser tromper par les gens qui sont bien vernis, qui sont bien blanchis. Mais il faut que vous vous méfiez des façades bien polies. Alors, le prophète Samuel a dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. » Vous vous souvenez quand Samuel est venu pour établir David en tant que roi et puis son père, Isaïe, en français c'est un peu différent qu'en anglais, Isaïe, il a proposé les 7 premiers grands frères. Eh bien, Samuel a dit, mais ils doivent avoir encore un autre parce que ce n'est pas un de ceux-là. Eh bien, c'était l'autre, le petit, le garçon, hein, que Dieu voulait parce qu'il avait un cœur qui était converti au Seigneur. Dieu regarde le cœur. Puis en parlant de certains gens religieux, Jésus a dit, donc, en parlant des gens religieux, donc l'extérieur bien garni, blanchi, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins de ossements, de mortes et de toute espèce d'impureté. Et puis aussi dans Jérémie, vous connaissez bien ce texte dans chapitre 17, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Donc, quand on parle de ce qui est dans l'homme et on dit « Tiens, je vais me confier à l'homme. Ah » ben, on n'a pas grand-chose en laquelle on peut se fier. Mais quand on choisit de se confier à l'Éternel, on a tout ce qui est l'Éternel en quoi avoir confiance. Donc, on va voir un petit peu dans le texte de Genèse chapitre 28. Et je vais lire versets 10 à 15. Genèse chapitre 28, versets 10 à 15. Genèse chapitre 18, versets 10 à 15. Pour vous qui ont une Bible comme cela, ok? C'est la page 28. Ok. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Donc, il a pris le fuite de chez lui parce que son frère allait le tuer, si vous vous souvenez bien. Il est parti. Et donc, je reprends un peu plus tard le texte. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il se fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Donc, il démarre Dieu en parlant d'Abraham et Isaac. Dieu avait fait des promesses au père et il fait suivre les promesses à Jacob. Parce qu'une fois que Dieu donne une promesse, il ne peut pas revenir en arrière. Dieu ne peut jamais mentir. Il ne peut pas dire une chose qui n'est pas vraie. Il fait des promesses et il tient sa parole. Et donc, il fait passer les promesses à Jacob. Là, on a un exemple purement par la grâce. Parce que Jacob n'a aucun mérite. Il a eu les modèles d'Abraham. Il a eu le modèle d'Isaac. Abraham avait cru à la promesse de Dieu. Dieu avait dit, je te promets une chose. Et bien qu'il ne voyait absolument rien dans l'accomplissement de cette promesse, il a cru à la parole de Dieu et Dieu lui a compté ça pour justice. Ici, Dieu donne tout un tas de promesses à Jacob et il n'en croit à rien. Donc, on va voir dans le verset 18 à 22 comment il ne croit pas à la promesse de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Beth-El, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Donc Jacob va faire un vœu en disant, et trois fois il utilise le mot « si », la condition. Dans la condition que Dieu tienne parole, je vais me convertir. Mais si Dieu ne tient pas parole, eh bien moi je ne vais pas me convertir. Okay? Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, si il me donne du pain et à manger et des habit pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera, donc deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, comme si Dieu avait besoin d'une pierre à habiter, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc là, c'est la confession d'incrédulité. Si Dieu me donne tout ce que je veux, je vais devenir croyant. Il y a plein de monde qui font comme ça. Ah oh ben, j'ai pas encore vu Dieu, ou il n'a pas répondu à mes prières, ceci, cela. Plein de choses que les gens donnent comme excuse pour ne pas croire à la parole de Dieu. Jacob aurait dû tout simplement dire, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, il a fait des promesses, il a tenu parole envers les pères, et eh bien il va tenir aussi bien les promesses qu'il me donne. Eh bien non, il dit, je doute entièrement de ce que Dieu dit, on va voir. Quand je verrai s'accomplir les promesses de Dieu, alors en ce moment-là, je vais croire. Jacob, à travers tous ces chapitres-là, est non-croyant. En tant que non-croyant. Donc, ça ne nous étonne pas qu'il a trompé son père. Il a dû s'enfuir devant son frère qui voulait le tuer. En chapitre 29, versets 17 et 18, on lit dans Genèse chapitre 19, versets 17 et 18, il arrive chez son oncle, il voit qu'il y a une jeune fille. Ah, je vais me marier avec celui-là. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai, donc il parle à son oncle, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Donc il va se marier strictement sur la base de l'extérieur, de ce qu'il voit chez cette dame. Elle est bien belle. Et puis on va voir à travers le chapitre 29, qui va se trouver en polygamie. Hein, parce que vous savez, Laban n'a pas donné Rachel comme elle avait promis, mais il a donné Léa comme sa femme, et puis il a donné Rachel par la suite, et puis dans le conflit qui vont suivre, donc Léa va donner sa servante pour femme à Jacob, et puis par la suite, Rachel va donner aussi, non, c'est Rachel qui donne sa servante à Jacob, et puis par la suite, Léa qui va donner sa servante. Donc, il va avoir 4 femmes. OK? Et nous ne nous étonnons pas que les hommes pécheurs soient heureux d'avoir plusieurs femmes. On le voit dans les pays païens. Hein? Et puis dans nos pays civilisés, bon, on le définit différemment. Hein? Mais il y a plein de Français qui ont plein de femmes. Pas en même temps. Peut-être une femme différente toutes les semaines ou tous les mois, mais ça revient à la même chose. Okay? Donc ça, c'est ça rapport à notre cœur du péché. Alors, on note dans l'histoire que toutes les femmes de Jacob sont païennes. Il n'y a pas croyante parmi elles. Dans le chapitre 30, première moitié, on va voir les luttes, on va voir les conflits, on va voir la jalousie, on va voir les compétitions familiales. La jalousie va régner dans son famille, parmi ses femmes, parmi ses enfants, au point où les enfants vont vendre un des frères en esclavage. Vous imaginez, bon, qui a des frères ou sœurs? Tout le monde a un frère ou une sœur? Non, pour la plupart parmi nous, ok? Imaginez, vous prenez l'autre là, le frère ou la sœur, et vous le vendez en esclavage. Il faut vraiment être un peu dur là, n'est-ce pas? Après, dans le chapitre 30, la seconde moitié, on va voir plein de manipulations que Jacob va faire pour tromper son oncle, pour qu'il ait l'avantage sur lui. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'amour, et l'amour ne cherche pas son propre avantage. Ah ben, Jacob cherchait son propre avantage pour que tous les brebis deviennent à lui et que le mien reste à son oncle et à ses cousins. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la colère, ça donne de la haine. On peut voir dans chapitre 30, donc verset 43, Genèse chapitre 30, verset 43, et puis chapitre 31, versets 1 et 2. Cet homme, c'est-à-dire Jacob, après avoir travaillé 20 ans pour son oncle, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. C'est les conséquences de ses actions, de ses décisions. Il a trompé son oncle et ses fils, mais maintenant il va en payer. Donc Jacob est parti de chez ses parents, en fuite pour sa vie. Maintenant, il va partir de chez son oncle, en fuite pour sa vie. Hein? Parce qu'il ne veut pas être tué par ses cousins. Alors, c'est beaucoup de pagaille là. Peut-on remédier une telle situation? Peut-être. Je doute. Même si une personne se convertit et que Dieu lui donne une nouvelle vie, ça ne veut pas dire que tout le reste du gâchis qu'elle a fait dans la vie des autres va changer. On a semé le bazar, la méchanceté, les paroles. Eh bien, c'est comme ça. Et le mal se propage. Peut-on changer? Peut-on régler une telle situation? Peut-être. Hein? Je pense qu'on dit Zachée, qui était dans l'arbre, Zachée. Hein? Il a rendu tout ce qu'il avait volé par les impôts. Hein? Donc, peut-être il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas rattraper, mais au moins l'argent, il a payé le quadruple de ce qu'il avait volé. Donc, certaines choses, oui, mais d'autres choses, non. Chaque décision, que ce soit une bonne décision ou une mauvaise décision, a des conséquences. Certaines de ces conséquences auront des ramifications perpétuelles. Vous pouvez vous plaindre que Dieu ne change pas miraculeusement vos circonstances. Pourtant, c'est vous qui détermine votre situation par vos choix. Ma femme parlait avec ma mère ce matin. Elle s'est réveillée très tôt. À propos de neveu. Ah ben, ce neveu, il n'arrive pas à faire les bons choix. Ah ben, elle a pagaille dans sa vie. Mais je suis croyant. Pourquoi Dieu ne change pas ma vie? Pourquoi il ne change pas les circonstances? Parce qu'il continue à faire des choix des païens. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il est croyant qu'il va prendre des bonnes décisions. Il devrait prendre des bonnes décisions. Et il ne le fait pas. Donc, les conséquences qui en suivent. Il y a un exemple aussi. J'ai entendu un pasteur a dit, ne parlez pas contre le pasteur devant vos enfants, car plus tard, quand vos enfants auront besoin d'aide, ils n'écouteront pas le pasteur. Eh bien, ce pasteur, il a parlé contre moi. Et quand son fils avait besoin d'aide parce que son mari tombait en ruine, eh bien, le fils n'écoutait pas du tout. Parce que son père avait raison. Il ne faut pas parler contre la personne que vous souhaitez vous aider plus tard, surtout envers vos enfants. Or, concernant Jacob, tous ses enfants, ça semble, étaient non-croyants. Sauf pour Joseph. Il avait 11 garçons non-croyants et une fille non-croyante. Et puis Joseph, qui était croyant. Tous ses enfants étaient idolâtres. Il y a un qui a commis un acte d'inceste. Il y a sa fille qui se met en ménage avec un garçon. Ces garçons vont tuer tous les hommes dans un village. Ils vont vendre leur frère en esclavage. Il y a un de ses fils qui va fréquenter les prostituées. Quelle belle image. Conséquence des choix de Jacob. On ne peut pas rattraper le mal qu'on sème. Jacob nous a servi d'exemple d'un homme animal. Pas dans le sens qu'un animal, vraiment un animal, mais psychique. Hein? Psychologie, psychiatrie, etc. C'est le psychique, d'accord? L'homme psychique, l'animal, sans relation, sans rapport avec Dieu. Néanmoins, nous ne serons pas justes de le critiquer trop. Hein? Car la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous dans le même bateau. Chacun pour sa part, nous amassons un grand poids de culpabilité. Je suis dans le même bateau. Hein? Je ne dis pas, voilà vous et pas moi. On est tous pareils. Hein? Alors j'ai dit, Dieu peut-il remédier la situation? Peut-être, peut-être pas, ça dépend des choses. Hein? Mais Dieu peut-il pardonner une telle vie? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Dans Matthieu 12, Jésus a dit, « Je vous dis, tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes. » Donc, quand on dit tout, ça veut dire combien? 100%, n'est-ce pas? 100%. Sauf, il dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et il faut bien comprendre, c'est l'incrédulité. Dieu ne peut pas pardonner l'incrédulité. Même en Apocalypse 21, il dit, ceux qui seront en enfer, c'est les incrédules. Okay? Donc, d'attribuer l'œuvre de Dieu au diable dans l'incrédulité, eh bien, ça, Dieu ne peut pas pardonner ça. Mais quand une personne se repent de son incrédulité, ben là, Dieu peut pardonner même ça. Ça revient donc à dire, ayez confiance en Dieu. En Romains chapitre 3, verset 4, nous lisons que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Afin que Dieu soit trouvé juste dans ses paroles et qu'il triomphe lorsque on le critique. Dieu est fidèle et les hommes ne le sont pas. Jacob aurait dû se fier à la parole que Dieu lui a donnée. Il aurait dû dire, amen, je vais faire ce voyage et il va pourvoir pour moi. Il va me donner à manger et à me revêtir. C'est le même sujet que toi ou dans le bon berger hier. Dans Psaume 118, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. On peut se confier aux hommes. On peut se confier à l'économie mondiale et tout ça, mais c'est mieux de vous confier en Dieu. Parce que quand tout ça va se casser, eh ben, vous allez être quand même en vie et Dieu sera toujours là et Dieu lui fait des promesses pour pourvoir pour ceux qui ont confiance en lui. Jérémie 17, encore, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Et c'était quoi l'incrédule? Il était comme un misérable dans le désert. Qu'est-ce que vous souhaitez être, comme un misérable dans le désert? Ou comme un arbre planté près d'un ruisseau qui a de l'eau à sa disposition constamment? En Genèse chapitre 28, on a lu tout à l'heure que Dieu, il a fait ses promesses, il était fidèle à Abraham et à Isaac. Dieu, il est toujours fidèle à ses promesses. En particulier, Dieu a promis, dès avant les temps anciens, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Depuis toujours, il a promis ça. Une foi véritable se construit sur la base unique de la parole de Dieu, les promesses que Dieu exprime. Et en particulier, donc, en ce qui concerne son Fils qui est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité. Il y a l'homme animal, et lui, il se convertit pour être un homme spirituel. Et là, on lit dans Jean 3, « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire humain, naturel, et de l'esprit, né de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Étant homme naturel, on ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Mais si on a la nouvelle naissance, si on a la nouvelle vie, les vies de Dieu, eh bien, on entre par cette vie dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, ce qui est humain est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est divin. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la nouvelle naissance. Il partage sa vie avec nous. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ça, c'est le message de Jésus à Nicodème. Nicodème, qui était un homme religieux, bien instruit dans l'Ancien Testament et tout ça, pourtant, il n'avait pas encore fait une bonne relation avec Dieu par la nouvelle naissance. Donc, Jésus l'a appelé à la nouvelle naissance. « Chers amis, où en êtes-vous? Non-croyants, comme Jacob? Hypocrite comme des gens religieux que Jésus a critiqués? Avez-vous reconnu votre besoin de la nouvelle naissance? Avez-vous mis votre confiance en Dieu par le Seigneur Jésus qui a lavé vos péchés par son sang? Et puis, bien sûr, vivez-vous dans la lumière pour vous qui ont changé d'être un simple homme psychique à être aussi un homme spirituel. Et quand je dis homme, je veux dire homme et femme. Attention, j'utilise dans le sens de l'humanité. Où en êtes-vous? Donc, je vous encourage à réfléchir et voir ces choses dans l'intimité de votre maison.